Bonjour et bienvenue dans la suite de la deuxième saison des Destins Flottants. Dans ce nouvel épisode, mon invité déconstruit le chemin de vie classique qu'un modèle sociétal nous impose à travers un témoignage intelligent, construit, touchant et vulnérable. Je suis ravie de vous présenter Perrine Rambaud. Aujourd'hui, mon invité est coach, auteur et nomade. Et elle explore notamment des modes de vie comme voyager seule en sac à dos, remonter la Nouvelle-Zélande seule en stop, apprendre et naviguer 11 500 miles nautiques sans avoir connu la voile avant, voyager 3000 km à vélo électrosolaire, tendre vers un mode de vie zéro waste, animer des jardins partagés, bref, que d'aventures qui, je crois, résonne avec l'envie de construire un avenir recentré sur des valeurs telles que l'humanisme, l'écologie et l'alignement corps, cœur et mental. Il s'agit de Perrine Rambaud. Perrine, comment ça va ?
Ça va très bien, merci de me recevoir.
Donc en tant que coach aujourd'hui, tu aides les gens à réaliser leurs rêves, mais pas seulement leurs rêves de voyage, hein, ça peut être tout type de rêve. Alors peux-tu nous en dire davantage ?
En fait, on a tous des envies profondes qui très souvent s'estompent au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, parce qu'on suit une voie tracée par la société ou par nos peurs, en fait, tout simplement le fait qu'on a eu un échec d'un côté ou qu'on a des doutes sur telle ou telle situation, bah du coup on recule un peu et on choisit des options qui sont confortables. Et en fait, il arrive un moment dans la vie où on a ce confort, on regarde sa vie, on regarde qui on est, et on se dit, mais en fait, c'est pas ça que je voulais, et c'est pas moi. Et surtout, c'est pas ce dont le monde a besoin. Donc en fait, la majorité des gens qui viennent me voir sont des personnes qui cherchent à explorer un petit peu mieux qui elles sont, ce qu'elles veulent, et surtout comment y aller. Et comment y aller, c'est pas forcément en faisant, mais c'est surtout en changeant la manière qu'on a de penser et en regardant pour chacune des situations ce qui bloque à l'intérieur pour que après, bah, du coup, naturellement, on prenne confiance et on avance vers ce qu'on veut profondément.
Yes, c'est toujours la première étape hein, de modifier sa pensée, la pensée est matière, comme on dit dans le bouddhisme, hein, Vajrayana. Mais alors d'abord, avant de parler de tout ça, j'aimerais qu'on parle de ton histoire et surtout des perceptions hein, que tu pouvais avoir sur toi et sur le monde avant ton moment de bascule qui s'est concrétisé en un burn-out dont on parlait hors antenne. Alors voilà, j'aimerais d'abord qu'on parle de la Perrine d'avant ce burn-out. Qui étais-tu et quelle perception de toi et du monde tu pouvais avoir ?
Burnout, juste avant mes 30 ans, c'est intéressant comme date. Et en fait, toute ma vingtaine, je cours. Enfin, je cours. J'ai pas l'impression de courir, mais disons que j'ai une vie remplie, je suis super énergique. Donc, je fais mes études en Allemagne. Après, je travaille aussi en Suisse. Les week-ends, je fais tout le temps des choses. Il arrive un moment aussi où j'ai l'impression que j'ai pas assez de temps pour tout tester. Donc, je commence à faire de la danse. J'apprends le piano. Je fais du théâtre. Je dis jamais non à une invitation. Donc, en fait, je suis dans une sorte de boulimie d'activités qui sont en fait une tentative pour moi de masquer ce qui va pas. Qui est donc le fond, qui est que je suis pas là où j'ai envie d'être. Mes vacances, c'est des voyages, mes rêves, c'est l'aventure, et j'ai beau être bonne au travail, j'ai beau adorer mes collègues, j'ai beau m'y donner à fond, mais en fait, ça nourrit pas en profondeur, ça nourrit pas la personne que je suis au cœur.
Et alors, tu te sentais limitée ? D'une quelconque manière, comment, en quoi tu te sentais limitée à ce moment-là, hormis la fulgurance de toutes ces activités ?
Limitée en temps. Je me sens pas limitée en énergie à ce moment-là parce que j'ai toujours été très énergique, volontaire, etc. Donc ouais, limitée. Je vois pas en fait les limitations mentales. c'est certainement là où on veut aboutir. Pour moi, c'est vraiment à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc c'est le faire, le faire, le faire. Et aucun intérêt pour l'être. C'est-à-dire que ne rien faire pour moi, c'est une perte de temps. J'ai vraiment cette pensée à 22 ans. Je termine mes études, j'ai mon job qui m'attendait déjà parce que c'était mon deuxième stage. Et je suis en Allemagne. En fait, j'ai fait donc 2 ans en France, 2 ans en Allemagne par alternance semestrielle. Donc Mon dernier stage était en France, puis après j'avais encore une année, 6 mois à Bordeaux, 6 mois à Münster. Et je suis à Münster en Allemagne. J'ai mon copain qui m'attend, j'ai mon job qui m'attend en France. Et aussi, bah, certainement, les attentes de mes parents de bah, « elle va rentrer, c'est bon, voilà, on a fait notre boulot, elle est autonome ». Et en fait, au fond de moi, je sens vraiment ça de... Je suis en Allemagne, en plus c'est la Coupe du Monde de foot, donc c'est 2006. Il y a une énorme ferveur, il y a ben, toutes ces personnes avec qui je viens de passer 4 ans. Et tout est possible, en fait. Pour moi, en Allemagne, c'est vraiment ça. C'est pas forcément le fait que ce soit l'Allemagne, c'est juste le fait que ce soit différent, une autre langue, une autre culture. J'ai vraiment l'impression, avec ma petite valise, que je peux recommencer ma vie n'importe où, n'importe quand. Et que tout est bonus. Et en fait, revenir en France, revenir dans ce travail qui pourtant m'a plu, et je suis très fière qu'on m'ait attendu, qu'on a embauché quelqu'un en m'attendant, etc., pendant un an. Mais en fait, c'est ça la vie. Donc j'ai vraiment, à 22 ans, clairement vu, je vais m'engouffrer dans ce tunnel du travail, du copain, du coup du mariage, des enfants, de la maison, etc. Et ma liberté, je la retrouverai que à la retraite. Ça, vraiment, je le vois. Franchement, ça m'a été dit, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, on parle d'écouter son intuition, bah ben là, il n'y avait pas photo, quoi. Je le savais, je le sentais, c'était dans mon corps. Je sens que j'ai ce potentiel immense, en fait, dans ma vie, mais ben, y a des choses à faire. Et ces choses à faire, c'est être raisonnable et prendre ce qu'on nous donne et y aller.
Alors, justement, c'était quoi tes études et ton job à ce moment-là?
Ah, c'est une excellente question. Parce que les études, en fait, j'avais pas de vocation. Donc dans ma famille, les 4 grands-parents sont instits. Mes parents se sont rencontrés au camping GCU, groupement, je sais pas quoi, universitaire, des campeurs, groupement des campeurs universitaires. Donc en fait, c'est managé que par des profs. Et donc on rigole beaucoup dans la famille parce qu'il y a 2 couples qui se sont formés là. Et donc l'enseignement, la sécurité, par contre tout le monde est vraiment super passionné par son travail et moi j'avais pas cette vocation. Donc je me voyais pas faire j'avais pas une idée précise. J'imaginais bien, j'étais attirée par les langues, être prof d'anglais qui était ma première langue, du coup là l'allemand j'avais vraiment bien amélioré, mais je m'imaginais pas être prof parce que je me disais bah du coup je vais toujours être dans le même niveau. Je préférais utiliser mes langues pour aller à la rencontre, à la découverte. Donc n'ayant pas vraiment une vocation, bah du coup c'est la voie du milieu, la voie utilitaire de je veux utiliser mes langues et en même temps faire un métier qui me rapporte de l'argent évidemment. Donc école de commerce. Tout simplement. Et ça, c'est vrai que c'est, bah, évidemment, papa, je t'embrasse, hein, c'est vraiment dans la famille ce qu'on m'a dit. Bah voilà, les langues c'est très bien, mais pas tout seul. Donc j'ai fait les deux. Mais comme j'aime bien les gens, évidemment que travailler en entreprise c'était super. Donc j'ai fait du marketing et de la communication, où j'étais en fait le lien entre l'usine, les ventes, le développement, enfin le laboratoire. Je travaillais dans l'industrie. Ce que je trouvais passionnant, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de choses techniques à apprendre, à découvrir. Donc il y avait vraiment tout ce côté curiosité satisfaite, en tout cas. Et surtout, ce que je voulais dire par là, c'est que il y avait toujours des choses à apprendre, il y avait toujours des choses nouvelles, il y avait l'aspect humain, et j'oublie en cours de route ce que je voulais dire par là. Voilà, j'étais aussi, en parlant allemand, toujours, puisque au niveau industriel, l'Allemagne et la Suisse allemande, c'est énorme pour les machines, pour les conférences, pour les salons, etc., j'étais toujours l'interlocuteur privilégié. Et ça, je trouvais ça génial, d'aller chercher l'information en un coup de fil, quand d'autres galéraient par email à avoir des réponses en anglais approximatives. Donc en fait j'étais portée par tout ça de ben voilà, je suis une adulte, je suis capable, je suis efficace, je suis appréciée, donc pourquoi dire non? Pourquoi dire non?
Oui, je vois, c'était un peu tu avais comment on dit, sur un plateau d'or, quelque chose de tout tracé, pas une prison dorée, je dirais, mais en tout cas un chemin bien sécure qui te valorisait et où en plus tu pouvais gagner de l'argent. Donc ça pourrait faire rêver, hein.
Et c'est très intéressant.
Mais tu sentais, voilà, que c'était pas ce...
Excuse-moi, ouais. C'est très intéressant. Écoute, que tu parles de ce plateau d'argent ou de cette prison dorée, parce que c'est quelque chose que mes clients me disent souvent. C'est-à-dire qu'ils ont réussi leur vie, mais au fond ils se meurent. Et moi c'était un fait pareil, c'est j'avais réussi dans la vie, mais j'étais pas en train de réussir ma vie. Et il y a une grande différence entre faire ce pour quoi on est bon et faire ce qui nous appelle intimement et au plus profond. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai fait, c'était super intéressant. Ça m'a énormément appris sur moi-même. Ça m'a donné une confiance qui m'a permis de faire la suite. Par contre, après, il faut avoir le courage de se dire, bon, ok, là, j'en ai fait le tour. Et c'est pas un côté insatisfait. Souvent, il y a cette croyance limitante de je suis une éternelle insatisfaite, je sais pas ce que je veux faire, je me cherche. Tout ça, on l'entend beaucoup. Mais c'est quoi le problème? On n'a qu'une seule vie. Pourquoi est-ce qu'on cherche pas encore et encore et encore? On n'est pas en train de trahir les autres ou de se trahir soi en écoutant ce qui nous met en joie. Donc voilà, pour répondre à ta question sur la prison dorée, parce qu'effectivement, c'est vrai que souvent, on reste bloqué là-dedans sur le « ouais, mais c'est ce à quoi je suis bon ». Mais en fait, nos points forts, on peut les recycler à l'infini dans énormément de domaines différents, et à nous de tester.
Oui, non mais exactement, je pense que ça, c'est un point très important, c'est de pouvoir se dire qu'en fait, on pourrait exercer, je sais pas, 100 métiers dans une vie, que c'est ok. En fait, de tout le temps se chercher, justement, et de vouloir se trouver, de tout le temps se poser des questions et de vouloir tester différentes choses. Je pense que c'est cette curiosité, en fait, qui crée notre richesse, finalement. Et les points forts, ils peuvent se retrouver, comme tu dis, dans d'autres métiers. Et même parfois, on n'a pas conscience de certains métiers. Ça me rappelle, je parlais justement avec un invité du fait que quand on est enfant, quand on veut travailler avec les animaux, on nous dit que la seule manière de travailler avec les animaux, c'est d'être vétérinaire. Mais en fait, pas du tout. Donc la compétence qu'on a, je sais pas moi, par exemple, de parler aux animaux, on peut la retrouver ailleurs que dans le métier de vétérinaire. Donc, ouais.
Il faut être un enquêteur, en fait. Il faut observer. Et en plus, aujourd'hui, on a une telle capacité à aller voir et aller interroger les personnes qui nous inspirent, les choses qu'on voit. C'est clair que c'est plus comment s'appelait le CIO, le Centre d'Information d'Orientation, où il y avait des vieux livres poussiéreux et où il y avait 3 options. Enfin, aujourd'hui, on va sur Internet, on peut taper n'importe quoi. Il y a plein d'articles de blog, il y a des podcasts, il y a des réseaux comme LinkedIn où on peut aussi aller poser des questions directement aux professionnels. Moi, je me rappelle avoir fait ça. Je me rappelle quand j'étais en Suisse, je pensais aller peut-être vers l'industrie pharmaceutique. Je sais pas pourquoi, mais et j'ai interrogé une personne en lui disant voilà, j'ai fait l'industrie, j'ai envie de tester autre chose. Et c'était une entreprise qui faisait des choses vraiment innovantes. Et elle me dit ouais, enfin tu sais, on se retrouve aussi vite enfermé dans sa propre niche. Et voilà, donc c'est intéressant d'avoir des retours. Après, on en fait ce qu'on veut. Mais allons explorer, parce que ce sera toujours mieux que de rester assis sur son canapé et de penser qu'on va trouver la solution sans se confronter au monde, sans se confronter aux autres, sans se confronter à soi-même, évidemment. Donc ouais, non, tu as tellement raison. Et donc aujourd'hui, il y a plein de métiers aussi qu'on peut créer soi-même.
Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, on a énormément d'outils, en fait. Si demain, on veut changer de vie, je pense qu'on a énormément à notre portée pour ce faire. Les podcasts, moi, c'est une mine d'or d'informations. Vraiment, j'y trouve ma plus grande source d'inspiration. Il n'y a pas un jour où j'en écoute pas. En fait, dès que j'ai un trajet en voiture, en train de marcher ou que sais-je, je mets toujours un podcast et à chaque fois, j'apprends énormément. Et à la fin des podcasts, je me dis waouh, mais tout est possible. En fait, ça me redonne tellement de motivation et je pense que ça peut concrétiser vraiment, j'en ai la conviction, un projet professionnel. Moi, ça a concrétisé mon projet de podcast en tout cas.
Mais oui, non, mais c'est clair. Je pense qu'il faut abattre aussi, tu vois, ce mur entre, justement, en parlant de conditionnement, quand dans sa famille, par exemple, moi, dans ma famille, prof. Déjà, des gens qui travaillent dans le privé dans ma famille, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, quand tu sais pas que des gens le font, c'est impossible pour toi d'imaginer que c'est possible. Ou alors tu peux, mais comment tu vas aller aborder des personnes qui font ce que tu as envie de faire? Moi, un exemple que j'ai, c'est la traversée de l'Atlantique. J'ai décidé d'apprendre à naviguer pour traverser l'Atlantique. Je voulais vraiment vivre cette expérience de retraite dans un désert liquide, loin du monde, pendant 2 semaines, 3 semaines. Et la première fois que j'en ai parlé, évidemment, c'était à mes parents. Et ben voilà, c'était évident. La réponse que j'ai eue, mais c'est dangereux, et si t'arrive quelque chose, etc. Ce que tu disais très bien dans un autre épisode où, les gens nous renvoient leurs propres angoisses. Donc là, en fait, c'était pas les personnes à qui il fallait que j'en parle. les personnes à qui il fallait que j'en parle, c'est des personnes qui le faisaient. Et en rejoignant un capitaine, puis un autre, je me retrouve à un moment aux Canaries. J'ai traversé déjà depuis l'Espagne jusqu'aux Canaries pendant 6 jours, donc première expérience hauturière. Et là, je suis à l'apéro avec nos camarades de catamaran d'à côté, et je les regarde, je les écoute, et je me dis, ben voilà, en fait, je suis des leurs. Pour eux, il y a pas, enfin, je suis pas juste une équipière ou je suis pas la nana qui cherche à. non, j'ai ma place. Et je l'ai acquise. Et c'est intéressant parce que dans ma tête, je crois toujours pas que je suis capable. Pour moi, je me fais juste... voilà, les gens me font une faveur. Mais c'est faux. Je veux dire, là, en plus, dans ce cas-là, j'ai traversé seul avec le capitaine. On alternait toutes les 3 heures. Enfin, c'est moi qui barrais. C'est moi qui ajustais les voiles. Enfin, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il me faut de plus comme preuve pour me dire j'en suis capable? Donc voilà, ça se passe vraiment dans la tête. Et sortir de... Ouais, mais je l'ai pas fait avant. C'est pas parce qu'on l'a pas fait avant qu'on en est pas capable.
Mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et mon expérience au Brésil et dans d'autres pays même me l'ont prouvé. Parce que, en fait, quand vous avez un projet et que vous vous lancez dans le projet, les personnes qui vous reçoivent, elles font comme si vous étiez professionnel. Moi, j'ai eu beaucoup cette expérience où j'avais l'impression d'être considérée comme quelqu'un qui avait énormément d'expérience. Et du coup, je n'avais pas le choix d'endosser le rôle, en fait. J'allais pas casser le truc en disant « Ah bah non, en fait, vraiment, j'ai pas beaucoup d'expérience, aidez-moi. » Non, parce que au fond, qu'est-ce qui m'empêchait? Et je pense que ça, c'est David Laroche, je crois, qui dit que quand on s'efforce à faire semblant, et bah, au bout d'un moment, on le devient vraiment, en fait. C'est plus du semblant.
Ah ouais, le fameux fake it till you make it. Mais dans ce que tu dis, je pense qu'il y a aussi le côté confiance. C'est-à-dire que si on me fait confiance pour faire quelque chose, je veux me rendre digne de la confiance qui m'est accordée et je veux prouver que ça marche. Mais si la personne n'a pas vraiment confiance en nous et a des doutes, elle nous ouvre la porte pour qu'on ait nous-mêmes des doutes. Donc ça, c'est vachement intéressant aussi de voir que dans nos entreprises, très souvent, on va promouvoir les personnes qui ont les compétences, mais pas les personnes qui ont les skills, enfin, on parle de soft skills, mais qui ont les, comment est-ce que ça s'appelle? Qui ont le savoir-être, oui. En fait. De savoir, tirer le meilleur des gens, de leur faire confiance et de lâcher. Et souvent, quand les managers sont très bons dans ce qu'ils font, bah, du coup, ils sont crispés et ils permettent pas à leurs équipes de vraiment s'exprimer, d'oser, de le faire différemment. Parce qu'ils veulent contrôler, parce qu'ils ont déjà une idée de comment ça doit être fait. Et ça, c'est une horreur des deux côtés. Autant pour la personne qui dirige que pour la personne qui doit soumettre. Et ça, c'est super intéressant à voir. Je pense que la confiance en soi, elle vient pas forcément du faire, c'est vraiment un état d'être, mais ça nous est aussi beaucoup renvoyé par les autres. Donc si on est en confiance par rapport à soi-même, si on transmet la confiance aux autres, tout le monde gagne en fait.
Exactement. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu justement sur ce point de bascule que tu as eu, hein, ce burn-out, ce marasme d'émotions extrêmement négatives, lourdes et difficiles. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, a pu chuter? Et là, quelles croyances ont été bousculées?
Ouais, alors c'est super intéressant parce que je te disais, ça s'est produit juste avant mes 30 ans. Et quelques mois auparavant, je me disais, ah, 30 ans, l'heure du bilan, non, je pense pas que je referai des choses différemment. Donc j'étais vraiment dans un truc de « ouais, je suis contente de là où je suis, machin ». Enfin, en clair, je voyais les choses depuis ma fenêtre, n'est-ce pas? Et à partir du moment où j'ai ce burn-out, donc où tout s'écroule, où je perds toute mon énergie, c'est comme si tous les murs tombaient. Et donc là, je vois que, un, j'ai plus de maison, que je suis vraiment aux prises avec les éléments et que ben il reste plus que moi. Je peux pas me cacher derrière mon titre professionnel, ma situation en couple, enfin, peu importe ce qui nous apporte cette sécurité. En fait, je suis vraiment à poil. Et je suis extrêmement vulnérable, je suis aussi très en colère, parce que c'est du harcèlement, mais bon, évidemment, 50-50, hein, on était deux dans cette relation, et moi, en fait, j'étais pas capable de dire non, j'étais pas capable de m'écouter, j'étais pas capable de recharger mes batteries. Et donc là, ce qui se produit, c'est vraiment ça, c'est un effondrement de tout, de mon corps, de le corps qui ne répond plus, qui me permet pas de me lever, et la tête qui tourne en boucle. Des milliards de pensées qui tournent, enfin, un épuisement de dingue. On dort plus la nuit, on essaye de dormir un peu la journée, enfin, on est bon à rien. Donc, pour moi, qui était très efficace dans la performance, je ne suis bonne à rien. J'ai une honte immense de pas être au bureau, enfin, on va penser de moi que je suis une tire au flanc, et gnagnagna, enfin, incroyable. Incroyable, comme tu dis, c'est vraiment un tumulte d'émotions contradictoires, et en fait, en même temps, l'impression de couler, de tomber vers un fond. Moi, j'aime bien l'image d'un puits sans fond. C'est vraiment ça, c'est que je m'enfonce dans une sorte d'obscurité. Mais au fur et à mesure que je descends, en fait, ça se calme, ça s'apaise, et je vois que ça peut être en fait super bien pour moi. Parce que je me rends compte que quand tout brûle, quand les couches superficielles et inutiles disparaissent, bah, il reste plus que moi, l'essence, et la question de qu'est-ce que je veux vraiment. Et ce qui aide aussi, je pense certainement, dans cette situation de burn-out, c'est que quand les gens nous voient au plus mal, c'est plus facile pour eux d'accepter qu'on a besoin de changement. Parce que là, c'est évident. Donc ça m'a aussi énormément aidé. C'est-à-dire qu'avant, j'essayais de faire des choses, mais c'était pas assez gros. Le mur était pas assez près de mon nez pour que je me rende compte que c'était vain et que j'avais besoin d'actions un peu plus ambitieuses. Donc je sais pas si je réponds à ta question, mais voilà, le burn-out, pour moi, assez rapidement, quand je comprends ce que c'est, grâce à des podcasts, parce que j'en avais aucune idée de ce que c'était. En fait, j'ai écouté des podcasts, enfin, c'était à l'époque des émissions de radio 2014, sur France Culture, où des gens parlaient de reconversion, ou parlaient de harcèlement moral. Je pense que je commençais par le harcèlement moral. Et ça déviait vers le burn-out et vers des reconversions. Et quand j'écoutais ces personnes-là qui racontaient à quel point elles avaient complètement tout revu, je me disais, waouh, quel courage. Puis en fait, la seconde d'après, je me disais, mais en fait, moi, j'ai toujours trouvé génial toutes ces personnes qui changeaient de vie plusieurs fois. Enfin, quand on regarde les personnes qui nous inspirent, c'est vraiment des indicateurs. C'est-à-dire que j'ai toujours été très, très intéressée, curieuse, attirée et pleine d'admiration pour des personnes qui avaient vécu X vie professionnelle ou X vie tout court. Et en fait, ça revient. Ça revient, cette idée de, OK, ben voilà, j'ai essayé, c'était un chapitre de ma vie. Maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment, moi ? Pas parce que les autres posent des questions. Et je pense une bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais si l'argent n'était pas un problème? Qu'est-ce que je ferais si, on arrive à ta question, si j'étais illimitée? Si je pouvais tout apprendre? Si je pouvais rencontrer toutes les personnes que j'ai besoin de rencontrer pour y arriver? Donc voilà, donc j'ouvre là à fond le champ des possibles. Bon après, ça c'est dans ma tête, hein. Au niveau physique, j'ai zéro jus. Donc je prends mon mal en patience, mais je... Voilà, petit à petit, je pense qu'une chose qui m'a beaucoup aidée, en tout cas, ça a été de découvrir un des TED de Florence Servan-Schreiber sur la gratitude. Donc j'ai commencé tous les soirs à écrire mon journal de gratitude et voir déjà que malgré le fait que j'avais pas ce jus, que j'étais plus la Périne qu'on connaissait, l'énergie, etc., il y avait quand même des choses très positives dans ma vie. Et ça, je pense, c'est indispensable. C'est-à-dire que tout s'écroule, mais malgré tout, il y a quand même des choses qui me faisaient du bien. J'ai acheté un appareil photo réflexe et j'allais prendre des photos pour me forcer entre guillemets à marcher. Et voilà, et j'avais le soutien de mes parents qui habitaient pas loin. J'avais quelques conversations avec des amis, même si c'était franchement limité parce que je tournais en boucle et je détestais m'entendre comme ça. Mais voilà, je trouvais tous les jours. Normalement, c'est trois choses, plus que trois choses qui me faisaient plaisir. Un rayon de soleil, c'était le printemps, enfin le printemps, là je te dis, je me suis croulée en juin 2014, donc là je suis vraiment sur la fin, mais voilà, enfin revoir la vie la vie qui reprend son cours, une journée ensoleillée en décembre, enfin ce genre de choses-là, je pense que ça m'a vraiment aidée à me dire, ok, là je peux pas changer la situation, par contre, à l'intérieur, je peux ouvrir en grand, cette réception à la magie de la vie. En fait, je suis encore en vie. Il y a des gens qui se suicident à cause d'un burn-out. Il y a des personnes qui sont pas soutenues par les proches. Il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles ont pas les capacités ou les compétences de se relever. Il y a des personnes qui sont bloquées par une situation familiale. Moi, je suis libre. Je suis juste locataire. Je peux tout refaire.
Ça, c'est super important. Et si on pouvait adresser un message aussi à toutes ces personnes qui vivent ces choses extrêmement difficiles et ces moments de grand chaos, finalement. Oui. J'adore cette phrase qui dit « La nature n'aime pas le vide ». Donc, quand on perd tout, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue en notre faveur. Alors, c'est très dur à voir sur le moment parce qu'on est dans notre tumulte d'émotions, que c'est... Voilà, on a énormément de chagrin et de colère. Mais vraiment, la nature n'aime pas le vide. Ça, c'est une loi universelle. Donc, quand on perd tout, appart, job, relation, c'est qu'un grand changement va s'opérer et va être remplacé, toujours. Voilà, c'était un petit message d'espoir pour ces personnes-là. Périne, alors, par quel voyage tu as commencé, donc quand tu as décidé de t'en sortir, et quelles ont été les prises de conscience à ce moment-là?
J'ai commencé petit parce que justement, ben, j'étais toujours pas rétablie. Je pense que, ouais, je dis, il m'a fallu peut-être 2 ans pour retrouver ma pleine énergie. Donc, je pars en mars 2015 et j'ai trouvé. En fait, j'ai peur de plein de choses. J'ai peur de combien de temps je vais pouvoir voyager avec mon livret A, qui est quand même plein. Mais bon, voilà, c'est quand même la trouille de se dire, voilà, j'ai pas d'apport d'argent. Je suis une femme seule, c'est dangereux. Je ne sais pas ce que je veux faire. Et enfin, c'est bien beau tout ça, mais derrière, faut quand même avoir un projet professionnel. Donc, j'ai un peu ces trois choses-là qui sont devant moi. Et donc, j'y vais petit à petit. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de partir complètement tous horizons ouverts, je participe à une formation d'encadrement de chantier solidaire. C'est quelque chose que j'ai déjà fait en Islande 2 ans auparavant. Et j'aime beaucoup ce côté multiculturel où en fait des gens viennent, donc là dans mon cas ce sera en France que j'encadrerai, des gens viennent un peu de partout dans le monde, aident contre le gîte et le couvert à restaurer un château, à enfin n'importe quel type de projet en fait. Et passent ce moment ensemble et aident à en fait au départ c'est la reconstruction franco-allemande, c'est ça l'origine des chantiers solidaires. Le but c'était que les Allemands et les Français fassent connaissance, les jeunes. Bref, donc tout ça pour dire que je me dis bah, très bien, j'aime beaucoup cette idée du multiculturel, de construire ensemble, d'interculturalité, je viens de le dire. Donc je vais commencer par cette formation, je la vois arriver dans ma boîte mail et c'est intéressant quand tu dis la nature a horreur du vide. Le jour où j'appelle la DRH, je vois cette offre, je réponds. Le lendemain matin, je parle avec la DRH. Et l'après-midi, je reçois le mail de confirmation pour la formation. Une porte se ferme, une porte s'ouvre. Et donc voilà, donc c'est mon premier chapitre, c'est ça, c'est donc la Sicile avec donc des jeunes d'un peu partout en Europe, y compris Ukraine et Russie d'ailleurs. Et donc avec eux, on construit vraiment un programme sur comment impliquer les gens et les faire s'exprimer. Il y a tout un pan qui est je sais pas comment on l'appellera en français. J'aime pas éducation populaire, c'est pas le terme. Mais oh, je le trouve même plus en anglais. Bref, en clair, c'est vous venez en tant que participant, mais on n'est pas dans une attitude descendante. Et que, je pense qu'on l'appelle éducation informelle, c'est-à-dire que chacun apporte quelque chose au groupe. Exprimez ce qui vous vient. Vous avez tout en vous. Et ça, déjà, c'est un truc que j'avais jamais entendu. Pour moi, il fallait être expert. Donc ça, déjà, ça secoue quelque chose et je trouve ça super inspirant parce que je suis la plus âgée de voir tous ces jeunes qui ont déjà fait le choix d'avoir une carrière ou en tout cas de s'engager dans des projets qui sont en alignement avec leurs valeurs et non pas juste l'appât de la sécurité comme moi je l'avais suivi, en fait la raison, mais plutôt ce qui résonne. Donc voilà, ça c'est mon premier petit chapitre d'une semaine simplement et après je pars toute seule avec mon sac à dos. Et ben là, je suis toute seule. Et la première nuit où je suis seule en Sicile, j'ai envie d'aller me promener, mais il fait nuit. Et je me dis, ben non, en fait, je peux pas faire ça. Je peux pas me promener seule dans la rue. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un truc où voilà, on est en plein dedans, là. Je me sens limitée. Je dis, mais pourquoi moi, en tant que femme, je peux pas le faire? Si j'étais un homme, pourquoi est-ce que j'aurais, entre guillemets, cette autorisation vis-à-vis de moi-même, mais aussi dans le regard des gens, d'être pleinement libre, de pleinement me mouvoir quand je le veux, où je le veux, de la manière que je le veux. Et 2 jours après, je suis dans la vallée des temples à Agrigente, et je suis en train de prendre des photos, le soleil se couche, tout ça, et il y a un homme qui vient et qui me propose de prendre une photo. Je suis, ah ouais, super, l'approche, machin. Je suis un peu sur ma défensive, tu vois. Et sur mes gardes et en fait on commence à échanger et donc il s'appelle Juan, il vient d'Espagne, il vient de faire un tour du monde et en fait c'est juste génial parce que c'est quelqu'un qui a fait cette expérience de voyager avec d'autres personnes, chose que j'ai lue sur des blogs dont je sais que plein de gens le font, mais c'est ma première fois. Et donc en fait c'est même moi qui lui propose d'aller manger ensemble et le lendemain il est très très soft en me disant bon voilà je m'en vais d'ici 1 heure si tu veux me rejoindre, il avait une voiture, il me proposait qu'on continue ensemble. Et j'ose me faire confiance. J'écoute cette petite voix intérieure qui me dit, c'est bon, tu peux lui faire confiance, vas-y. Et avec lui, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est moi, je vais pas dire 2 ans plus tard, mais bon voilà, c'est quelqu'un qui a 2, 3 coups d'avance sur moi et qui me met en confiance et qui m'ouvre à ce monde, qui me tend les bras, qui m'attire et dont j'ai envie. Donc voilà, une première croyance tombe. Et je pense que la croyance c'est plutôt celle-là, c'est pas forcément c'est dangereux d'être une femme, c'est je ne m'autorise pas à écouter mon intuition. Je m'autorise pas à me dire que j'ai les propres solutions pour moi-même. J'attends pas qu'elle vienne de l'extérieur et qu'on me dise c'est bien, c'est pas bien, fais-le, le fais pas.
Ok, super. Et par rapport à l'argent, justement, mm-hmm. quand t'as commencé à voyager vraiment en autonomie, sur des longues distances, comment la sécurité de l'argent et la finance de tes voyages, enfin la croyance autour de l'argent a pu se modifier en fait? Comment t'as fait?
Ouais, alors ça c'est pareil, c'est aussi progressif évidemment. En fait, la confiance, comme dans tous les domaines, hein, elle grandit en avançant par l'expérience. Donc au début, ben en fait, je voyage un peu comme une touriste, c'est-à-dire que après la Sicile, je vais voir des amis à Berlin. Donc là, je suis encore un peu toujours dans le même type de vie entre guillemets salarié. Enfin voilà, on va faire des brunchs, on va au resto, enfin la vie que je connaissais. Et puis après, je vais en Grèce. Et seulement pour 3 semaines. Mais en Grèce, j'avais envie de rejoindre un chantier. Donc en fait, je passe par un site qui s'appelle Helpex, ou Helpix en français. Help Exchange, donc on échange son aide. C'est le même principe que les chantiers, mais c'est entre des particuliers. Et donc j'ai envie de faire ça. J'ai envie de passer peut-être voilà une semaine ou deux avec un autre. Mais c'est pas la bonne saison pour les olives. J'ai pas de réponse. Et donc du coup, je fais ce que je fais toujours. C'est-à-dire que je passe 3 jours à Athènes, je vais dans les Cyclades, après je vais à Delphes, de Delphes je vais à Corfou, et Corfou, j'y passe une semaine complète et je ne fais rien. Parce qu'en fait, je suis capoute, j'ai toujours pas mon énergie, et en fait, je cherche à être en vacances juste pendant un an. Mais en fait, j'ai pas envie d'être en vacances, j'ai envie d'être. J'ai pas envie, et d'ailleurs Corfou c'est intéressant parce que les panneaux dans la ville sont en cyrillique, et pas en... je sais pas si c'est le cyrillique, l'alphabet, j'ai un doute là-dessus. Bref, sont en grec et non pas en alphabet latin. Et en fait, je suis paumée. Et je marche au hasard. Et je m'arrête dans un café et je me dis, mais en fait, est-ce que c'est vraiment important que j'aille voir ce centre historique, patrimoine de l'UNESCO, et que je prenne des photos? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Ou est-ce que je peux juste aller à la plage aujourd'hui et prendre l'avion demain parce que je rentrais pour une réunion familiale? Est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? Est-ce que moi, Perrine, j'en ai envie? C'est quoi, en ce moment, la question que je me pose? Je me dis quoi? Les gens vont me demander quand je vais arriver en France demain. Ah, c'était comment, Corfou? J'y suis allée, c'était génial. Je l'ai pas vu. Et alors? Est-ce que c'est vraiment important? Donc voilà. Donc, en Grèce, c'est cette prise de conscience que, non seulement si je veux, donc, pour l'argent, pour répondre à ta question, hein, non seulement si je veux durer longtemps, je peux pas le faire en mode touriste, mais surtout, ça ne me nourrit pas. C'est pas ça que je recherche. Je recherche pas à aller prendre X photos de X trucs. Non, non, ce que je veux, c'est rencontrer les gens. Et mes plus belles rencontres, d'ailleurs, en Grèce, c'est dans un bus avec un homme qui a 60, 70 ans, que je retrouve le lendemain, il m'invite à boire le thé, et il se plaint. Il me dit, mais tu vas à Météora, et après Corfou, tu vas y passer une semaine, mais à Delphes, tu passes qu'une seule nuit. Et il a tellement raison, et j'aurais tellement eu envie de passer plus de temps avec lui. Donc voilà, c'est ce voyage émotionnel plus que ce voyage de touriste qui est plus sur cocher des cases. En fait, ça c'est ma performance, c'est ma vie d'avant dont je veux sortir. Donc après ça, il y a Copenhague. Copenhague, il y a un chantier. Donc comme j'ai déjà cette idée de traverser de l'Atlantique, que je n'ai jamais mis les pieds sur un bateau, je me dis je vais chercher des hôtes sur Helpex qui sont en lien avec la navigation. Et je trouve un chantier solidaire qui restaure un voilier pour faire du transport à la voile. Et je me dis, transport maritime, donc cargo, hein. Et je me dis, bah, super, allez, j'y vais. En plus, l'équipe est multiculturelle, il y a un Français, il y a des Grecs, il y a des Italiens, enfin, il y a de tout. Donc c'est tout à fait mon arche de Noé. Je l'ai rejoint, je pense y aller pour une semaine parce que j'en sais rien. Voilà, si ça me plaît, je reste. Si ça me plaît pas, je m'en vais. Et j'y reste 2 mois. Et après, je reviens en France pour un mariage. J'y retourne à nouveau pendant 1 mois. Et c'est super intéressant, c'est ce qui se joue là, parce que c'est la même chose. C'est amener qui vous êtes et partager à hauteur de ce que vous pouvez donner. Et moi, je suis là très... germaniste, très managérial, et je veux organiser. Il y a un festival qui est organisé, et je suis non, mais là on n'est pas dans le sujet. Il faut faire des communiqués de presse, il faut publier sur le blog, sur les réseaux sociaux, il faut parler avec tous les passants qui passent, il faut aller chercher des financements. Enfin voilà, je suis vraiment dans le faire. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, je m'aperçois que je vais passer du temps sur un ordinateur à essayer d'organiser tout ça, puisque j'ai les compétences et sont tous plutôt des scientifiques. Mais en fait, c'est pas ça que je veux. Ça, je sais faire. En fait, il s'agit pas de ce que je peux apporter au projet, mais de ce que le projet peut m'apporter aussi. Et j'ai beaucoup plus de plaisir à poncer et à peindre et à calfater que à faire ça en fait. Donc ça c'est une grande claque pour moi aussi. Et l'autre aspect, c'est que quand ils font ce festival d'ouverture du projet et qu'ils proposent des ateliers vraiment divers et variés, dressage de chiens, photo argentique, mais bon après il y avait quand même des choses en lien, hein, ou danse, salsa, enfin et autres, je vois vraiment qu'en fait moi je suis incapable d'aller proposer de faire une animation sur quelque chose que j'apprécie parce que je suis pas experte, parce que j'ai pas ce saut de je suis compétente, voilà. Et donc ça c'est super intéressant pour moi à voir que je suis encore dans prouver par le faire et faire ce pour quoi je suis compétente, et le reste, même si ça m'intéresse, j'ai pas l'impression que je suis légitime.
Ok, ouais, non, super intéressant. Par contre, par rapport à l'argent, en fait,
je me disais
comment...
la même chose. Je t'ai pas répondu. Donc, Copenhague, sur le bateau, donc ils nourrissent, nous logent, et en nous nourrissant, en fait, ils nous nourrissent en allant faire ce qu'on appelle du dumpster diving, qui est en fait plongé dans les poubelles. Et ça, c'est assez incroyable de le vivre, surtout qu'à Copenhague, tous les jeunes font ça, la vie est extrêmement chère, donc les étudiants le font tous. Il y a un gâchis immense, et aller dans les poubelles de supermarché, tout est empaqueté proprement. Enfin, franchement, on fait pas les poubelles, on va juste se servir dans les invendus. Et il y a des fois, on a récupéré mais 15 kilos de fraises ou de cerises. Non pas qu'ils étaient gâchés, c'est juste qu'en fait, il y avait la nouvelle Zapro qui était arrivée, donc en fait, ils mettent le plus frais en rayon. Et c'était du bio. Enfin bon, voilà, c'est un truc de dingue. Donc ça, déjà, se rendre compte qu'on pouvait vivre avec rien. Donc moi, en fait, quand je suis sur le bateau, je donne mon temps, j'ai pas de transport, j'ai pas d'hébergement, et j'ai pas besoin de me nourrir. Et de voir que pendant 3 mois, je peux vivre avec, je sais pas, moi, allez, j'en sais rien, même peut-être que j'ai dépensé que 300 euros, j'en sais rien. Quand je pars, du coup, je leur fais un don en me disant, ben voilà, ça va servir à leur projet. Donc j'ai ça en tête. Là, j'ai compris, j'ai ressenti que l'abondance, elle était disponible, elle était possible. Et donc, ce que je fais, parce que j'arrive à la limite de mes 31 ans, je demande un permis vacances-travail pour la Nouvelle-Zélande, qui est l'endroit où je rêvais d'aller, mais 3 semaines en août, c'était juste pas possible. Ça valait pas le coup écologiquement et après au niveau simplement de présence. Et donc, en Nouvelle-Zélande, c'est un haut lieu du LPEX, justement, et du woofing. Je me dis, je vais faire que ça. Et donc, sur la Nouvelle-Zélande, je prends, en fait, plus on voyage longtemps, moins on dépense d'argent. Donc, je prends vraiment tout ce temps pour rejoindre des personnes, les aider contre le gîte et le couvert. Quand j'arrive à Auckland et que j'ai des démarches à faire, je suis fille au père, là, je suis rémunérée. Et je pense, voilà, j'avais retiré, je pense, 1400 euros avant de partir. C'est, voilà, j'ai peut-être dû gagner, allez, 600 euros peut-être sur mon job, enfin, épargné au début. Donc voilà, grand maximum, j'ai dépensé 2000 euros sur place. Et là, je parle de 11, 12 mois. Et une autre chose à dire, c'est qu'au moment...
C'est dingue pour la Nouvelle-Zélande.
Oui, bah alors après, voilà, ça c'est un truc que je dis toujours, moi je bois pas de café, je bois pas d'alcool, je fume pas, donc si vous avez un budget café, alcool, clope, faut le rajouter là-dessus, mais voilà, je suis très frugale, j'adore l'eau, donc tout ça pour dire que les transports, j'ai fait du stop, en fait ce qui m'a coûté le plus cher, c'est de randonner seule, parce que là je payais pour ma nourriture, je me suis acheté un sac de couchage, et j'avais un pass, mais bon, ça coûte pas grand-chose d'avoir un pass pour aller dans les différentes cabanes. Et ce que je voulais dire sur l'abondance, donc en fait, soit on pense qu'il n'y a pas assez, enfin, soit on voit le verre à moitié vide, soit on voit à moitié plein, n'est-ce pas ? J'arrive à un moment où c'est la fin de mon séjour et j'approche facilement des 100 dollars qui me restent sur mon compte néo-zélandais et je me suis un peu lancé ce défi de « je vais pas piocher dans mon compte français ». Il me reste 100 dollars et puis je rejoins une famille. Et au cours du deuxième jour, elle me dit « Écoute, là, on part pendant 15 jours en Chine, on a un fils qui va d'un côté, un fils qui va de l'autre, le troisième, il reste à la maison et on a des amis qui vont venir donner un coup de main. Mais franchement, si t'as envie de rester, la maison est à toi. Le cottage, il y a 2-3 réservations, c'est pas grand-chose. Et bah, t'as la voiture, tu vas te balader autant que tu veux. Si tu veux rester plus tard et qu'il faut faire garder l'aîné, on te donne le numéro d'une nounou. Enfin, voilà quoi. Tu peux rester. » Et je me dis, voilà, entre retourner dans une auberge de jeunesse et faire les jobs que personne ne veut en Nouvelle-Zélande, pas très bien payés, etc., et avoir du temps pour moi, ce à quoi j'aspire à ce moment-là, ben je choisis de rester avec eux. Et le jour où ils partent, elle me dit, on va te payer. Et ils me payent donc 600 dollars qui remboursent en fait tous mes frais enfin voilà, l'univers quoi, qui conspire, qui tu donnes et on te rend. En fait, en donnant, tu peux recevoir.
C'est exactement ça. Ça, en fait, donner déjà t'enrichit humainement et amoureusement. Et vraiment, j'ai eu la même expérience en Amazonie. En fait, j'ai monté un projet d'aide aux indigènes là-bas sur la base de ce dans quoi j'avais déjà travaillé à Bahia. Et au début, tout le monde me disait, ouh là là, l'Amazonie, tu vas dépenser beaucoup d'argent, ça va être voilà de grosses dépenses, etc. Donc bon, j'avais prévu le budget et de fait ça rétrécissait mon voyage, mais j'avais prévu pour. Et puis finalement, sur place, comme bon déjà j'avais ce projet d'aide, etc. Aux indigènes, je n'ai pas payé une seule fois ni mon hébergement et très rarement la nourriture. Parce que je me faisais tout le temps inviter, parce que les gens croyaient en mon projet, parce que... Et là, je me dis, waouh, en fait, la puissance du don, c'est dingue, c'est vraiment s'abandonner au don. En fait, l'univers, la nature, la vie nous le rend, mais 10 fois plus. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment une question de... C'est la loi de l'attraction, tout simplement.
Ouais. Ce qu'on met dans le champ énergétique, mais c'est intéressant parce que hors antenne, on parlait des dictons, tu vois, enfin, qui façonnent un peu ces pensées limitantes. Et je te disais, ben, après, il y a beaucoup d'opposition. Il y a les contraires s'attirent ou qui, maintenant, je trouve plus. C'est like attracts light en anglais. Ah zut, qui se
Qui
ressemble,
s'assemble, se
s'assemble.
ressemble.
Oui, voilà, qui s'assemble.
Voilà.
Et donc, en fait, on a les
L'inverse, qui
deux.
se ressemble,
Non, on
se
s'assemble. On va y arriver à deux. Et donc en fait, on peut toujours trouver les deux choses. Et ce que tu as dit, il y a, je pense, dans la Bible, ça te sera rendu au centuple, ça existe aussi. Donc en fait, on choisit soit de se dire que le monde est en rétractation, c'est pas le terme. Je m'excuse. Alors je vis, donc comme tu l'as dit, aux États-Unis, peut-être pas. Donc mon français est un peu, je rame parfois. Voilà, soit on est dans cette contraction, soit on est dans cette expansion. Et en fait, c'est nous qui choisissons de quel côté on met l'interrupteur. Et pareil, quand j'ai fait du stop, j'avais vraiment cette inquiétude au début en me disant, oh là là, ça y est, j'ai tellement de chance dans ma vie, ce matin, je vais faire du stop, je vais mal tomber, machin. Mais c'est faux. Et d'ailleurs, j'ai eu cette conversation avec un couple et deux enfants qui m'ont pris en stop et qui me disaient, mais pourquoi ta chance s'arrêterait? C'est toi qui l'as créée. Et j'étais pas encore capable de voir que c'était moi qui la croyais. Pour moi, ben voilà, j'avais juste de la chance. Ça, voilà. I'm a fluke, comme on dit en anglais. Enfin voilà, c'est un truc qui te tombe
Oui,
dessus, alors
alors,
que non. Non, non.
c'est ça. Attention au hack du cerveau. Quand quelque chose de très beau nous arrive, notre cerveau va nous hacker en nous disant profite parce que ça va pas durer.
Exact.
Ou alors il va envisager quelque chose de dramatique ou de beaucoup moins bien pour pas être déçu. Enfin, c'est terrible. Ça, c'est vraiment des hacks de la loi d'attraction et justement, c'est une vraie croyance limitante de penser ça. Que ça va s'arrêter, que c'est que de la chance, que attention, on profite parce que ça va pas durer. Ça, attention, c'est hyper limitant. Et c'est de la peur plus que de la réalité. Donc non, c'est clair qu'il y a un travail à faire de ce côté-là pour pas tomber dans le piège.
Qu'on
Tiens,
peut
je
utiliser
t'en
notre
prie.
cerveau dans le sens inverse, c'est-à-dire que notre cerveau, en fait, il fait plein de scénarios catastrophes. Donc, tu vois, quand on parle de loi d'attraction, c'est intéressant, ou de manifestation, on va toujours dire, ouais, c'est un truc ouhou, machin. Mais en fait, on est déjà en train de faire cette visualisation du pire. Donc, pourquoi est-ce qu'on se dirait que c'est, enfin, qui suis-je pour imaginer le meilleur pour moi-même, quand en fait, je passe mon temps à m'imaginer le pire scénario? Ben, en fait, on peut utiliser notre imagination complètement pour montrer au cerveau vers quoi on veut aller, lui montrer que ça se passe bien, qu'on est en joie, vraiment convoquer la joie, la gratitude quand on visualise une situation, c'est super puissant quoi. Et donc voilà, moi je suis passée par cette phase et je pense qu'on passe tous par là. En tout cas, des voyageuses avec lesquelles j'étais en contact en Nouvelle-Zélande, on était trois et les trois on a fait exactement on a eu cette même pensée de ça va s'arrêter, c'est pas possible, j'ai tellement de chance. Parce qu'en fait, c'est tellement au-delà de ce qu'on a imaginé, de ce qu'on pense qui est capable et aussi dans le regard des autres qui sont restés à la maison et à qui on raconte nos trucs incroyables. Mais voilà, on se dit bah non non, j'ai pas droit à ça. C'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Donc voilà, mais si, 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 ça peut m'arriver, c'est ce que je veux, je marche tous les jours dans cette direction. Moi aussi, je mets de la bienveillance, de la bonne humeur, j'en fais un devoir en fait. Je fais un devoir de propager ma bonne humeur, ma joie de vivre, etc. Et si je touche trois personnes qui sont contaminées et qui à leur tour vont propager cette joie, mais en fait, on gagne tous. Donc, c'est pas me rendre service, que de rester dans cette position de peur. Je veux propager la bonne humeur, je veux propager les bonnes nouvelles. Je suis le remède anti-JT de TF1. Voilà, je suis là pour prouver que on peut être femme, on peut être seule, on peut être voyageuse et on peut kiffer. On peut avoir vraiment une vie de dingue.
Exactement. Et donc, le dicton « c'est trop beau pour être vrai » à bannir. Vraiment,
ah, mais oui.
À bannir. Ça, c'est une vraie fonction limitante. Et je pense aussi que dans ce mécanisme positif, là, qu'on explique, c'est l'amour de soi aussi qui entre en jeu. Parce que, du coup, si on s'autorise à avoir une vie de rêve et qu'on crée des scénarios hyper positifs dans notre tête, il y a souvent la question du mérite qui revient.
Mmh.
Et ça, pareil, le mérite, c'est à bannir de notre vocabulaire. C'est pas qu'on mérite, c'est qu'on a le droit. Et ça, pour prendre conscience, intérioriser le fait qu'on ait le droit, c'est réellement s'aimer soi, se valoriser et être conscient de notre propre valeur, de ce qu'on peut apporter, même si on l'a pas encore apporté, on va l'apporter. Et ça, ouais, non, c'est hyper important de faire ce travail d'amour de soi. Alors justement, en parlant d'amour, hors antenne, on parlait du fait que l'amour pour toi, ça avait été un grand booster hein, dans ta vie quand tu as fait cette rencontre en Nouvelle-Zélande de ton chéri actuel. Et cela t'a permis de remettre voilà pas mal d'éléments en question. Alors que peux-tu nous dire à ce sujet ?
Vaste sujet. Bah, effectivement, ce à quoi tu fais référence, c'est un autre podcast où j'explique que en fait, avant de trouver l'amour, il fallait que je trouve l'amour de moi-même. Et ça, en fait, bah, c'était un gros travail que de me rendre compte que je m'aimais pas de manière inconditionnelle, mais voilà, qu'il y avait une condition à être suffisamment comme ci, suffisamment comme ça, etc. L'amour de mon corps aussi. Donc, une chose que j'ai pas abordée quand j'ai parlé du burn-out, c'est ça, c'est marche ou crève, le cerveau qui dit fais ci, fais ça, et le corps qui doit obtempérer. Et en fait, le burn-out m'a permis de me rendre compte que mon corps était mon meilleur ami. Mon corps était mon meilleur allié, que s'il n'y a pas de corps, ben, il n'y a pas de tête. Et petit à petit, voilà, en prenant conscience de ma respiration, enfin, honnêtement, j'étais en apnée au travail, ça tient aussi beaucoup à la posture, hein, d'être de plus en plus recroquevillée, etc. Mais je suis allée voir un magnétiseur à un moment, et ce soir-là, je me suis allongée sur mon lit, et... Oh, tout cet air qui a pu entrer en moi, c'était ben, un nouveau souffle, en fait. Mais c'était surtout choquant de voir à quel point je m'étais recroquevillée. Et j'étais plus dans cette pleine possession de mon corps et de ses capacités. Donc, je fais un petit détour par là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment pris conscience que mon corps était central et que je devais l'écouter. Et en voyageant, ça a été ça aussi. C'est-à-dire que quand je suis fatiguée, je m'arrête. Quand je le sens pas dans mon corps, je dis non. Il y a une fois en stop en Nouvelle-Zélande où s'arrête une voiture et ils sont en train de fumer des clopes et de boire des bières et je le sens pas. Donc du coup, quand ils me disent on va dans telle direction, je dis ah mais non, mais je suis du mauvais côté de la route. Peut-être que c'était, tu vois, pas si grave que ça. Mais bon voilà, j'ai eu cette petite seconde là de petit courant électrique qui m'a envoyé un message. Ok, mais je t'écoute. On est deux là-dedans. Il y a pas que la tête, il y a aussi le corps. Donc on est deux là-dedans. Et ensuite, j'ai ce moment où je me vois dans le miroir en Nouvelle-Zélande et où je regarde mon corps et enfin, je me dis, en fait, t'es pas si mal. C'est-à-dire que toute ma vie, ben voilà, j'étais trop ci, pas assez ça. Après, évidemment, il y a ce qu'on a entendu au collège. Enfin, moi, j'ai le droit à planche à pain, enfin, ce genre de truc, quoi. Donc, c'était jamais assez et j'attendais que la reconnaissance, elle vienne des autres. Et donc, ma valeur, c'était en fait ce qui restait après que on... après que les personnes aient exprimé en fait ce qu'elles pensaient de moi, que ce soit au niveau physique, intellectuel, peu importe, hein, tous les aspects, hein. Mais ma valeur, comme tu disais, c'est intéressant, ça revient à ce que tu dis sur le mérite et l'autorisation. Ben voilà, je m'autorise à m'aimer et j'attends pas de mériter de m'aimer. Parce que du coup, c'est quoi le measuring stick? Comment on dit? C'est quoi l'ordre de mesure? Enfin, ça passe pas en français, mais les talons, je ne sais pas. Comment est-ce qu'on mesure à quel point c'est bon, c'est valable, pas valable, etc. Parce qu'en fait, ben, si on est des internes insatisfaits, si on est des perfectionnistes, si on est... peu importe, ben, ce sera jamais assez. Donc, pour moi, ce gros travail, c'était d'abord de m'aimer moi. Ben, évidemment, le voyage, c'est se rencontrer soi par rapport aux autres. Donc, quand je vais chez les gens et que je ne suis plus dans cette identité professionnelle, etc., mais que je suis moi, Perrine, qui vient, qui aide. Et je l'ai vu avec les autres chez lesquels j'étais, c'est que je venais parfois pour tel projet, puis en fait, je proposais autre chose. Et puis, et tu ferais pas ci, tu ferais pas ça. Oh, pourquoi pas? Et en fait, en étant pleinement moi, en me proposant tel que je suis, mais ça, c'est extrêmement libérateur. Je ne porte plus un masque, je ne joue plus un rôle. J'avais cette difficulté quand j'étais au pair à Auckland, c'est que le père, on se parlait beaucoup, mais je savais pas mettre la limite entre l'amitié et la relation employé-employeur, et j'étais mal à l'aise là-dedans, alors qu'en fait lui il s'en fichait. Et en faisant toutes ces aventures où j'allais chez les gens, en fait eux ils m'accueillaient en tant que Perrine, pas Perrine étiquette. Et donc ça c'était vraiment génial. Donc je reviens à ce que tu disais sur l'amour, je suis pleinement moi, rien ne me manque, j'ai pas besoin de allons-y pour les dictons. J'ai pas besoin de ma moitié, puisque je suis pleine et entière. J'ai pas besoin de quelqu'un pour venir me rendre pleine et affirmer. Je suis moi, en pleine puissance. J'assume mes rêves. J'assume qui je suis, ce que je fais, ce dont j'ai envie. Et donc là, on est en mars 2016, donc ça fait un an que je suis partie. Je suis entre deux voyages à la voile avec un capitaine que j'adore. On prend les jeunes dans la nature pendant 5 jours et c'est juste génial. Et donc, entre deux voyages à la voile, je prends mon petit sac à dos, je mets beaucoup trop de nourriture dedans, j'ai aucune idée de quoi prendre, et je pars pour 6 jours. Et la première cabane où je m'arrête, il y a 3 Californiens qui sont en train de jouer du reggae, je me dis, oh là là, moi qui voulais être dans le silence et marcher tranquillement. Puis ils coupent la musique et ils me posent plein de questions. Depuis quand t'es là? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 6 mois que t'es ici. Ah, t'as fait de l'apiculture. Ah, tu fais du stop. Ah, tu veux traverser l'Atlantique à la voile. Ah, tu parles 4 langues. Enfin, voilà. En fait, toutes les questions qu'ils me posent, je fais des réponses simples, hein. Mais pour eux, c'est waouh, 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 waouh. Ce qui me pose un petit peu un problème parce que j'ai pas besoin, ni envie à ce moment-là d'attirer qui que ce soit. Mais en fait, c'est ça. C'est que je suis vraiment, et tu randonnes seul aussi. Ça les impressionne alors que c'est en fait le premier jour, tu vois. Mais bon, voilà, j'ai osé, je suis pleinement moi et je kiffe. Et donc ça, bah, c'est communicatif. Et donc dans les 3, bah, y en a un à qui je plais vraiment beaucoup, qui donc est aujourd'hui mon mari, hein, on va spoiler tout de suite. Et je l'aurais pas attiré à moi, en fait. Enfin, en tout cas, j'aurais pas attiré cette qualité de relation si j'avais pas moi-même, au départ, été indifférente. C'est un concept en coaching aussi d'être... je sais pas comment le dire en français, d'être non attaché au résultat, ça passe pas très bien en français, mais c'est vraiment ça, en fait, faire les choses par rapport à nous-mêmes et pas par rapport à une obligation de résultat. Et en fait, c'est ça, moi, je suis partie marcher parce que j'avais envie de marcher, je voyage parce que j'ai envie de voyager, je fais de la voile parce que j'ai envie de voyager, je suis pas là pour épater la galerie, je suis pas là pour prouver quoi que ce soit à quiconque. Par contre, à moi-même, oui, c'est mon chemin pour trouver ma confiance, c'est mon chemin pour m'affirmer. Et après, c'est cherry on the cake. Et c'est une discussion que j'ai avec une amie, d'ailleurs, qui me dit, Perrine, dans ton couple, tu ne seras jamais que le gâteau et l'autre personne n'est que la cerise. C'est pas moitié-moitié. C'est, on apporte chacun 100% et après, on crée un espace entre les deux où on ajoute quelque chose et la relation, en fait, c'est, je crois que c'est Thomas d'Ansembourg qui dit ça. Il y a je, il y a toi et il y a nous. Comment on va nous? Comment est né nous? Enfin, il a tout un. Je trouve super intéressant ce qu'il dit là. En fait, nous, c'est une personne 3 personnes. Ouais. Et ça, je trouve vraiment génial à voir. Et très souvent, on veut se fondre dans l'autre. On veut que l'autre se fonde en nous. Et on est dans des attentes et des allers-retours et des douleurs qui sont incroyables. Donc voilà. Mon message, ce serait ça. C'est d'abord s'aimer soi-même. Vas-y, vas-y.
Très intéressant, justement, le thème de la fusion qui viendrait d'ailleurs. Bon, d'après. Un bon nombre de courants thérapeutiques qui viendraient en fait de la fusion avec la mère dans l'utérus et donc l'épreuve de la séparation qu'on essaye de retrouver dans l'amour. Alors l'épreuve de la séparation, bon, ça peut être la mère au sens purement biologique du terme, ou alors au sens divin, dans l'incarnation dans la matière, quand l'âme s'incarne dans la matière, en fait on vit une séparation avec un monde divin, puisque le corps et l'esprit ne sont que le filtre, finalement, de quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, l'amour, enfin, pour moi, la relation amoureuse, celle qu'on vit vraiment, où voilà, il y a aussi de la sexualité, etc., c'est vraiment, je pense, l'expérience spirituelle la plus accessible à l'être humain. Et donc, il y aurait ce danger à vouloir fusionner avec l'autre. Et c'est là qu'on ne respecte pas ce que l'autre est et qu'on respecte pas non plus ce que nous on est, qu'on a du mal à exprimer ses besoins parce qu'on pense que l'autre connaît nos besoins alors que pas du tout. Et ça, c'est hyper important, ce que tu soulignes. Je pense que dans l'épreuve justement de la séparation, il y a cette distance à garder qui passe effectivement par l'amour de soi.
Indispensable. Et dans toutes les relations, même amicales, en fait. Hein. Savoir respecter, ça, je suis contente, tu vois, qu'il y ait cet engouement pour le développement personnel et qu'il y ait de plus en plus d'infos là-dessus. Savoir avoir des limites et savoir les faire respecter. C'est-à-dire que si moi, je dis pas non, ben, en fait, je laisse les autres me piétiner, je me sens pas bien, je ne leur donne pas ce dont ils ont besoin. Donc non, soyons clairs, soyons francs, expliquons évidemment la communication non violente, hein, mon besoin, ce que j'entends, ce que je ressens, et non pas le tu. Tu m'as fait ça, tu m'as dit ça. Non, c'est moi qui t'ai laissé venir jusqu'à moi. Donc maintenant, je vais restaurer un petit peu une distance parce que j'ai besoin de régénérer mon champ énergétique. Et bah là, je suis pas dispo tel soir. Mais par contre, je suis ravie de te trouver, qu'on se retrouve peut-être après-demain ou de telle façon, etc. Donc il y a toujours des solutions. Et sortir de cette... Je pense qu'il y a aussi ce côté gagnant-perdant. Quand on dit non aux autres, on a l'impression qu'on les rejette ou que si nous, on dit oui, on perd. Alors qu'en fait, on peut trouver un terrain d'entente. Mais pour ça, le prérequis, c'est un, de comprendre nos besoins et de les respecter. Et ensuite, la communication pour trouver un espace commun et cheminer ensemble. Et du coup, on alimente aussi la confiance. Tu vois, on parlait de confiance avant. La confiance, elle se perd, mais elle se nourrit aussi jour après jour.
Exactement. Merci, Perrine. Et alors là, justement, on va plutôt parler de ton métier de coach. Quelles sont les croyances que tu retrouves chez tes coachés? Est-ce qu'il y a de grandes tendances? Pourquoi on vient de consulter principalement?
Alors, consulter, c'est pas forcément un terme que j'apprécie. Je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, on n'est pas dans de la thérapie ou de la psychologie. Enfin, nous, en fait, on ne diagnostique pas. On accueille et on co-crée. Donc en fait, on n'est pas là pour dire aux gens quoi faire et comment. On est juste là pour voir les incongruences, pour voir les blocages, pour voir les pensées limitantes. Et souvent, en fait, la personne va te dire un truc, mais y croit à moitié. Donc ça va être ça, tu vois, dans les pensées limitantes, je dis « ouais, mais l'argent ». Je dis « ok, combien ?» Et en fait, très souvent, la peur, elle reste, ça revient à ce que vous partagez avec Christian Clos. Souvent, la peur, on la brandit comme un étendard de « ça marche pas », etc. Donc moi, les gens viennent avec des histoires, avec des peurs. Et quand je dis histoire, c'est « je suis nulle », j'ai envie de faire ça, mais personne me prend au sérieux, ou je suis nulle en orthographe. Enfin, ok, très bien, donc t'es nulle en orthographe. Comment est-ce que tu peux régler le problème? Et donc là, la personne va dire, ben, je peux demander à quelqu'un de relire, je peux prendre des cours, je peux faire des audios. Donc voilà, en fait, c'est toujours ça, c'est comment passer outre. Là, quand je te dis ça, c'est vraiment un angle mort. C'est-à-dire que la personne a décrété qu'elle était nulle, elle ne voit même pas que derrière, il y a plein d'éléments qu'elle peut déconstruire. Donc c'est pas, on va pas aller chercher dans l'enfance, etc. C'est juste par rapport à telle situation, où tu te trouves, où tu veux aller, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi tu l'as pas fait? Ah, j'ai pas osé parler à telle personne. Pour quelle raison? Parce que je pense que c'est des personnes qui ont pas de temps pour moi. Ok, mais t'as pas posé la question. Ou comment tu peux leur faciliter la tâche? Donc, c'est vraiment les aider à démêler tout ça. Et le but vraiment pour le coacher, c'est de complètement s'approprier le fait que ils sont capables maintenant de voir. Donc, la prise de conscience, c'est la première étape, hein, de voir ce qui bloque. Et après, de toujours avoir ce réflexe qu'ils ont construit avec moi de interroger. Donc voilà, donc c'est vraiment, je veux aller à tel endroit, c'est le résultat que je veux, et moi je les aide à aller de A à B, en voyant, en fait si tu veux je leur tiens la main, je pense qu'une image peut-être plus parlante, je leur tiens la main dans la forêt et je vois où il y a des branchages, où il faut qu'ils baissent la tête, voilà, donc je leur montre juste où est la branche avant qu'ils se la prennent. Et voilà, donc c'est un peu général comme question parce que ben, ça, après c'est extrêmement vaste, mais je te raconte même pas le nombre de personnes qui sont assises sur des mines d'or au niveau de leurs compétences, de leurs capacités, de l'entreprise qu'ils ont déjà démarrée, mais justement de leur peur de l'argent, de leur peur de demander, de toujours donner gratuitement, parce que ben au fond en fait c'est je suis pas assez, je peux pas demander, et voilà, donc d'où ça vient? Pourquoi je suis pas capable de demander de l'argent? Pourquoi je suis ok pour payer quelqu'un, mais moi je me rémunère pas? Pourquoi, enfin voilà, c'est super intéressant, c'est une discussion qui pourrait nous prendre des heures, mais on arrive à une heure. Mais voilà, les grandes tendances, c'est ce qu'on a discuté aussi ensemble, hein, l'argent, la peur de l'inconnu, je suis pas assez, que vont penser les autres ? Ah attends, il y en a une qui est intéressante. Il y en a une qui est intéressante, c'est au fur et à mesure que je vais avancer, les gens vont plus me reconnaître et vont plus m'aimer. Mais en quoi le fait de devenir meilleur, plus bienveillant, plus joyeux, plus enthousiaste ? En fait, encore une fois, on voit pas ce qu'il y a derrière, mais ce qu'il y a derrière, c'est que en devenant plus soi, on permet aux autres de prendre le même chemin. C'est l'aspiration. En fait, on les inspire et après, les gens qui ont des doutes et qui au début nous disent « mais n'importe quoi, j'en sais rien moi, t'es pas comédienne, etc. Ben » après, vont venir te voir en disant oh, « mais comment t'as fait ça ? En fait, je crois que moi aussi, j'ai envie d'être comédienne. Par quoi t'es passée ? Comment t'es ?» Voilà. Donc, ouais, celle-là, elle est super intéressante. Les gens vont pas me reconnaître et je vais être rejetée. Ben, l'abandon, le rejet, enfin, c'est des mêmes blessures, en fait, hein.
C'est ça. Oui, oui, non. Ça, c'est avoir peur de sa propre brillance parce qu'on a peur d'être jalousé. Alors qu'il s'agit plus d'inspirer que de transmettre, toujours. Donc, oui, c'est un point super important.
Ça me parle ce que tu dis parce que moi, je suis dans un processus d'écriture où justement, après avoir traversé l'Atlantique, je me suis dit, il faut vraiment que je le dise, que je le crie sur tous les toits, que si moi, je l'ai fait, n'importe qui peut le faire, tout ce que j'ai fait, franchement, je suis pas Wonder Woman, je l'ai fait un pas à la fois, une personne à la fois, en acceptant que parfois j'allais être rejetée. Le stop m'a beaucoup aidé. Le stop, t'as 20 voitures qui te disent merde, mais en fait, tu tombes sur la bonne personne et c'est génial. Donc, t'apprends à faire confiance en le fait que c'est pas le bon timing et que les choses viennent. Continue à montrer ton sourire, continue à être enthousiaste, continue à vouloir rencontrer ces personnes. Et voilà, donc sur l'écriture du livre, c'est vraiment ça, c'est mais ça va intéresser personne, et qui suis-je ? Oui, j'ai envie de transmettre, mais en fait, je suis pas en train de dire aux gens, faites comme ci, faites comme ça, c'est juste, voilà ce que moi j'ai vécu, avec mes propres doutes, avec mes propres failles, donc oser s'exposer, et le pouvoir de la vulnérabilité, il est énorme aussi, et ça c'est ce que j'ai vécu en voyage. En voyage, on peut être pleinement vulnérable, les personnes le sont en retour, et la relation, elle est beaucoup, beaucoup plus forte. Ça, c'est aussi une clé de oser se montrer. Et ça, je l'ai aussi avec des coachés qui...
Plus profond.
Exactement. Qui font la démarche d'en parler autour d'eux, tu vois, au lieu de dire, ils vont pas me reconnaître, ben en fait, qui partagent ce qui se passe au fur et à mesure. Et ça se nourrit, ça bouge ensemble, et c'est juste génial. Comme on peut rayonner autour de soi, et on s'en rend pas compte, en fait. Autant du négatif que du positif. Donc, choisissons le chemin qu'on veut pour nous-mêmes.
Exactement. Et alors Perrine, on approche à la fin de l'épisode, donc je pose deux dernières questions. Donc la première, quels sont tes prochains objectifs ?
Prochain objectif pour moi, c'est le livre. C'est vraiment de sortir de... Ben, c'est intéressant, c'est ce dont je te parlais à l'instant. Sortir un peu de mon coin où j'en parle, mais j'en parle pas trop parce que j'ai la peur du regard des autres. Alors là, je le dis de manière générale, mais bon, je pourrais être plus spécifique. Hein. Et très souvent, pendant très longtemps, je me suis dit que j'allais le faire en auto-édition. Et là, maintenant, c'est en fait, non. Si j'ai envie que le message puisse toucher les personnes qui ont envie de le recevoir, il est de mon devoir d'aller frapper aux portes des maisons d'édition ou des agents. Et dans le pire des cas, on me dit non. Mais dans le meilleur des cas, j'ai des personnes qui vont me donner un retour qui sera professionnel. Je vais apprendre grâce à eux et... si jamais ça marche pas, de toute façon, je l'auto-édite et ça revient au même. C'est juste que j'y passe un peu plus de temps, mais c'est un apprentissage. Donc c'est ça mon prochain défi.
Là, je te renvoie au dernier au podcast que j'ai fait justement avec Linda Bortoletto qui explique la première fois qu'elle publie son premier livre. Je sais pas si tu te souviens.
Je l'ai écouté. Ouais.
Et alors ça traîne et c'est terrible et il y a tout le monde qui lui dit ah non, il y a pas d'histoire et c'est vraiment, elle se dit mais c'est pas possible. Moi j'y crois à mon histoire, je veux que mon histoire soit publiée et finalement ça finit par fonctionner. À tout hasard, alors justement les hasards ne sont jamais des hasards, mais elle rencontre quelqu'un dans le cadre du théâtre qui lui fait ensuite connaître une petite maison d'édition qui accepte son histoire. Alors vraiment, je pense que là le maître mot pour toi c'est y croire.
Ouais, mais tu vois, il y a le côté, là je trouve intéressant que tu parles de Linda, parce que il y a aussi le côté de si tu n'y crois pas déjà toi pleinement, si t'attends que ce soit les autres qui y croient pour toi, ça marchera pas. Et après la rencontre, c'est-à-dire que honnêtement, les maisons d'édition, elles travaillent déjà avec leurs auteurs réguliers, donc les nouveaux auteurs c'est extrêmement rare, donc c'est souvent des gens qui connaissent des gens. Et si je reste dans mon coin et que j'en parle à personne, je risque pas de rencontrer qui que ce soit qui va me mettre en contact aussi, tu vois. Donc ça, c'est un autre aspect aussi. C'est, je le dis sur ma méthode pour réaliser les rêves que j'ai sur mon blog, le proclamer, quoi, oser le dire haut et fort, parce que déjà on se sent responsable vis-à-vis de nous-mêmes. Enfin, on se colle la pression. C'est le fameux accountability en anglais. Mais surtout, si on le dit haut et fort, ben en fait, on se met dans une situation où ben maintenant, faut que j'aille jusqu'au bout. Et du coup, ben tant qu'à faire, puisque j'ai pas le choix et je veux pas échouer, ben je vais mettre tous les moyens que j'ai à disposition. Enfin, je vais me saisir de tout ce que j'ai, en fait.
Exactement. Et alors, dernière question. Donc, penses-tu que nous sommes illimités?
Alors, il y a plusieurs réponses à ta question. Je trouve, effectivement, il y a le plan physique où je suis entre les deux. Pour moi, je suis super inspirée par plein de personnes handicapées, amputées, qui font des trucs de dingue. Par contre, effectivement, il y a un truc contre lequel on peut pas lutter, c'est qu'un jour, on va mourir. Donc, on a un temps limité. Par contre, après, au niveau de nos capacités intellectuelles, enfin, je trouve super intéressant qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de neurosciences. On peut vraiment créer ce qu'on veut, en fait, avec notre tête, avec notre cerveau. Notre cerveau, c'est un gros feignant qui aime être en économie d'énergie, qui pense les mêmes pensées en boucle, etc. Mais si on arrive à le prendre à son propre jeu, comme je te disais, avec des visualisations, en changeant notre pensée, parce que notre pensée de base va créer une émotion qui va générer l'action, qui va générer le résultat. Mais en fait, si on comprend que on agit en haut et c'est nous qui choisissons quelles pensées on implante dans ce cerveau pour que tout le reste suive, ben là, c'est illimité, en fait. Après, évidemment, on n'est pas en train de dire je veux être cosmonaute demain ou à 90 ans, mais il y a plein de choses qui nous appellent et on le ressent. Et si, franchement, ça c'est un truc qui est super important, si on a la graine, enfin si on est inspiré par quelque chose, c'est que on n'a pas encore trouvé le chemin, mais qu'on a la capacité d'y aller. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est resté. C'est mon apiculteur qui m'avait dit ça, parce que je lui montrais un truc. Et c'est vrai, ça s'est prouvé depuis. J'étais passionnée par les gens qui changent de vie, j'étais passionnée par plein de choses. Et ce sont des choses que j'ai réussi à réaliser.
Génial, Perrine. Mais même, tu vois, sur la notion de temps, du fait qu'on va mourir un jour, même ça, alors soit dans la vie purement physique, dans cette vie-là, on peut même laisser des traces illimitées, c'est-à-dire, je sais pas moi, bah, si demain... Si tu publies ton livre, tu vas forcément laisser une trace et ça peut inspirer encore pendant des siècles, tu vois. C'est en ce sens que je pense qu'on a ce côté un peu illimité. Et aussi, si on croit à la réincarnation, je pense que là, le côté illimité, il prend tout son sens.
Tout à fait raison. Non, je te remercie de l'ajouter.
Perrine Rambaud, merci beaucoup pour ta présence et tous tes précieux conseils. J'ai passé un super moment.
Merci beaucoup Anaïs pour ton invitation et oui, c'est passionnant et merci beaucoup pour ce podcast. Je pense que ça parle à énormément de gens et c'est tellement nécessaire. Parlons-en et faisons-en des conversations avec nos amis aussi. Oula, ce que tu es en train de dire là, c'est pas une pensée limitante. Relevons-le chez les autres et chez nous-mêmes.
Exactement.
De plus en plus.
Exactement, prenons-en.
Nickel.
Merci Perrine. Bonne soirée. Ciao, ciao.
Salut, salut.
Merci d'écouter Les Destins Flottants. Favorisez sa diffusion en l'annotant et en le commentant sur les plateformes de streaming et en le partageant autour de vous. Une mention en story, ça fait toujours plaisir. Merci et à bientôt.